Bien, bonjour. Merci d'être aussi nombreux parce que bon, c'est une première. C'est la première conférence qu'on appelle conférence IENA. Ce sont des conférences qui seront désormais de temps à autre organisées ici à la fois par l'École française d'Extrême-Orient et par le musée Guimet. Donc ces conférences IENA, vous les retrouvez dans notre programme qui est à l'entrée de la salle. Donc consultez la brochure, vous verrez, il y en a d'autres qui sont prévues d'ici la fin juin. Voilà, donc je ne vous présente pas Vincent Lefebvre, je pense que vous le connaissez tous, en tout cas pour ceux qui suivent régulièrement les conférences de l'auditorium du musée Guimet, Vincent Lefebvre qui est le commissaire d'une célèbre exposition qui n'aura pas lieu. Mais je vous rappelle que le catalogue est en vente à la librairie du musée et puis que nous continuons notre cycle sur le Bangladesh jusqu'à la fin de ce mois, donc Bangladesh jusqu'à la fin février. Voilà, je vais laisser la parole à Vincent Lefebvre, je vous souhaite une bonne conférence.
Merci et bonjour à tous. Je ne vous cache pas que c'est avec un petit pincement au cœur que je vais faire cette présentation aujourd'hui, puisque cette conférence aurait dû s'inscrire dans le cadre d'une exposition qui est en fait une non-exposition, que vous en avez eu quelques échos par la presse. Cela étant, j'ai été amené ces dernières semaines à prendre la parole un certain nombre de fois au sujet de cette affaire, et je suis malgré tout très heureux aujourd'hui de pouvoir parler d'un peu d'autre chose que des à côté de cette exposition, à savoir le fond, ce qui est notre véritable travail à nous conservateurs. Et donc je me propose de passer une heure sur un monument tout à fait fascinant, le monastère de Paharpur. Paharpur est à l'heure actuelle le principal site archéologique du Bangladesh et c'est également le premier site de ce pays qui a été classé sur la liste du patrimoine de l'humanité, liste de l'UNESCO. À la suite du classement de Paharpur, il y a quelques années, a été inscrit le site datant lui de l'époque musulmane de Bagherat. Et à l'heure actuelle, le site de Mahastan, que j'évoquerai également rapidement au cours de cette conférence, et sur lequel certains d'entre vous ont peut-être vu un documentaire hier en cette même salle, donc l'inscription du site de Mahastan est à présent à l'étude. L'idée de l'exposition sur le Bangladesh était de mettre en valeur un pays méconnu, donc il n'est peut-être pas tout à fait inutile de commencer ce propos par vous resituer rapidement le Bangladesh, qui constitue donc la partie orientale d'une région plus vaste, le Bengale. Et si vous voyez, donc le Bengale a été coupé en deux par la partition de 1947, et se trouve de l'autre côté de la frontière en Inde, le Bengale occidental, qui donc en constitue le pendant tout à fait exact. Donc à partir de maintenant, lorsque je parlerai de Bengale, il faudra oublier complètement cette séparation artificielle de 1947 et envisager les choses sur l'échelle historique. Donc je fais disparaître cette frontière et comme vous le voyez en fait ici, ce qui constitue géographiquement la particularité du Bengale, c'est d'être constitué par cet énorme delta où se viennent se mêler les eaux du Gange et celles du Brahmapoutre, sans parler celles d'autres fleuves finalement assez importants comme la Meghna ici. Le Bengale est un ensemble géographiquement assez vaste qui, au cours de son histoire, a connu a vu le développement de différentes dynasties et on a l'habitude de distinguer un certain nombre de sous-régions au sein de cette grande région historique. Celle que j'aurai le plus l'occasion d'évoquer au cours de cette conférence, c'est celle que l'on appelle Varendra ou également Pundravardhana, qui se trouve au nord-ouest, de l'actuel Bangladesh, donc au nord du Gange et à l'ouest du Brahmapoutre. Cette région avait pour capitale historique le site de Mahastan que j'évoquais il y a un instant, Mahastan dont l'ancien nom était Pundravardhana, qui se trouve ici, sur les bords de la rivière Karatoya, et le site dont il va être question aujourd'hui, Paharpur, se trouve donc au bout de la flèche, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Mahastan. Donc Paharpur, qui s'appelait autrefois, c'est le nom que nous connaissons à travers un certain nombre d'inscriptions, Somapura. Alors, l'intérêt de ce site, vous allez le voir, c'est que c'est un grand monastère bouddhique. Or, il existe dans le sous-continent indien un grand nombre de sites bouddhiques importants qui ont vu le développement de différents monastères, mais Parpour a cette particularité qu'il est le plus grand monastère en tant que tel. Par exemple, le site de Nalanda, que j'évoquerai à d'autres reprises, qui se trouve plus à l'ouest dans le Bihar indien, est un site qui est par lui-même plus étendu, où chaque monastère sont relativement petits. Alors que Parpour est un monastère unique qui, lui, est d'une taille tout à fait importante. C'est un site également qui pose un certain nombre de questions. Alors, mon propos aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une conférence plutôt grand public, c'est de vous faire un peu un état de la question sur ce monument peu connu, mais j'en profiterai également à l'occasion pour soulever quelques questions et proposer éventuellement des hypothèses un petit peu nouvelles. La première question que pose ce site, c'est celle de savoir pourquoi on a choisi cet endroit pour y construire un monastère. La région, vous allez voir quelques photos, n'est pas déplaisante, mais en même temps, rien ne prédisposait ce site à abriter un monastère, puisqu'il se trouve, je vous le disais, à une cinquantaine de kilomètres de ce qui était la grande capitale historique. Et dans les alentours, nous n'avons pas retrouvé de traces d'une agglomération importante. Il est d'usage dans le bouddhisme qu'un monastère se tienne un petit peu à l'écart de la population. Cela étant, la communauté des moines avait besoin qu'existe non loin du monastère une communauté laïque capable de l'entretenir. Or, voilà un des mystères de Parpour, c'est qu'on ne sait pas exactement dans quel réseau d'agglomération, quel réseau urbain il s'inscrivait. Quoi qu'il en soit, donc ce monastère a été construit dans une plaine alluviale particulièrement plate, et c'est une des particularités du Bangladesh d'être un pays extrêmement plat, sauf aux limites septentrionales du pays. Or, ce monastère, même s'il n'était pas associé à un centre urbain, a visiblement marqué les esprits au point qu'il a laissé son nom à la toponymie. En effet, je vous le disais, à l'époque ancienne, par les inscriptions, il était appelé Somapura Vihara. Vihara, qui signifie monastère en sanskrit, Somapura, que l'on pourrait traduire localité, la ville de la lune. On ne sait d'ailleurs pas très bien à quoi correspond ce nom. Mais le nom actuel de Parpour, en fait, signifie la ville, la localité, Pahar de la colline. Et comme je vous le disais, le Bangladesh est un pays particulièrement plat. Or, les ruines de ce monastère, ont longtemps abandonné et recouvertes de végétation, sont passées pour une colline, ce qui donc a donné son nom au petit village qui se trouve à côté, Parpour. Le monastère ayant été abandonné sans doute aux alentours du XIIe siècle, dans une région où la nature tropicale prend rapidement le dessus, donc les restes du monastère ont été recouverts de végétation et notamment d'un grand banyan, et c'est ainsi qu'il a été découvert au début du XIXe siècle. En effet, la première mention du site à l'époque moderne, remonte au journal de Buchanan Hamilton, qui était un administrateur au service de la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui a fait une tournée d'inspection dans toute la partie orientale de l'Inde entre 1807 et 1812. Il est donc passé à proximité de ce site, et malgré la présence du banyan au sommet de la colline, il a réussi à y reconnaître les vestiges d'un monument ancien. Et il a été même un peu plus loin que ça, parce qu'en établissant déjà des comparaisons avec des monuments connus au Népal et en Birmanie, il a proposé le premier d'y reconnaître les vestiges d'un temple bouddhique. Pour autant, malgré le récit d'Hamilton, qui nous dit aussi qu'il y avait des tigres et des panthères qui se promenaient dans cette végétation, le site ne fait pas l'objet d'une plus grande exploration, et il faut attendre ensuite 1879, pour que s'y intéresse Alexander Cunningham. Alexander Cunningham, maintenant que vous connaissez peut-être, qui était un ancien officier de l'armée britannique et qui est le père de l'archéologie indienne, puisqu'il a fondé l'Archaeological Survey of India. Donc en 1879, il se rend sur le site qui donc est toujours recouvert par la jungle. Et lui, il propose en fait d'y voir un temple hindou. Il sera le seul à proposer cette hypothèse qui ne sera donc jamais retenue. Et il faut bien dire que Cunningham n'avait pas tellement de preuves à avancer en ce sens. Il aurait bien voulu entreprendre des fouilles un petit peu plus poussées, mais le propriétaire du terrain, le Raja de Balihar, un petit souverain local, s'y oppose. Et donc Cunningham doit se contenter de faire un tout petit peu nettoyer le site. Les choses sérieuses du point de vue de l'archéologie ne commencent qu'en 1919, lorsque le site devient propriété de l'Archaeological Survey of India en vertu de l'Ancient Monuments Preservation Act, qui avait été passé peu de temps auparavant. Et en 1920, l'Archaeological Survey of India se dote d'une branche en Inde orientale, ce qu'on appelle l'Eastern Circle, et c'est avec le soutien de l'Eastern Circle que l'archéologue K.N. Dixit va se rendre sur le site pour la première fois en 1921. Donc les fouilles commencent 2 ans plus tard, en 1923, en accord avec le Survey, mais cette fois grâce à une initiative privée, celle de la Varendra Research Society, qui avait été fondée par un petit prince local. Et cette Varendra Research Society, basée dans la ville de Rachai, qui n'est pas extrêmement loin de Baharpur, avait pour objectif de fouiller les environs et a créé un musée qui existe toujours et qui, normalement, aurait dû être un des 5 musées prêteurs de l'exposition qui, donc, n'a pas eu lieu au musée Guimet. Des archéologues de l'Université de Calcutta se joignent également aux fouilles, qui sont reprises en 1925-1926. Et ensuite, de 1926 à 1934, elles sont conduites directement par l'Archaeological Survey of India sous la direction de K.N. Dixit, qui publiera en 1938 le rapport final de ces fouilles, qui, à ce jour, reste la publication d'ensemble la plus satisfaisante sur le monastère de Paharpur. Alors, il y a eu, après 1938, de nombreuses publications qui aborde des points beaucoup plus précis, des choses très partielles. Mais donc, vous le voyez, cela fait maintenant 80 ans que nous attendons une grande publication d'ensemble sur ce site. Et évidemment, depuis l'époque de Dixit, un certain nombre de conceptions ont pu évoluer. Donc, vous voyez ici le temple central en cours de dégagement. Et voici ce qui est ressorti après, à l'issue des fouilles de Dixit. Alors, je dois préciser que le rapport de Dixit est extrêmement illustré, mais l'Archaeological Survey of India avait conservé aussi un grand nombre de photos datant des fouilles des années 20 et 30, qui se trouvent maintenant qui sont la propriété du département de l'archéologie du Bangladesh. Et ces photos sur plaque de verre ont été numérisées au cours des années 90, début des années 2000, par l'équipe française qui fouille à Mahastan. Et il s'agit là d'une base de données extrêmement utile, peu exploitée jusqu'à présent. Mais vous le verrez à la fin de cette conférence, le site de Paharpur ayant connu un certain nombre de malheurs, les photos de l'État au cours des années 20 et 30 sont une source tout à fait importante, et pour certaines parties du monument, c'est le seul moyen de connaître l'état ancien du monument. Alors, il serait faux de dire qu'après 1938, il n'y a eu aucune fouille réalisée sur le site. En fait, il faut quand même attendre, il faut passer la guerre, puis la période de la décolonisation. Du temps du Pakistan, il y a eu quelques fouilles. Et ensuite, également, depuis l'indépendance, depuis 1971, il y a sporadiquement quelques fouilles qui sont effectuées, mais aucun travaux d'ensemble. Il y a surtout eu, et j'y reviendrai, des travaux de restauration dont on se demande s'il aurait mieux fallu ne pas s'en passer. Alors, avant de parler plus précisément de ce monument, il faudrait un petit peu préciser davantage le contexte historique. Donc, j'ai parlé de cette région, le Pundravardhana. En fait, cette région s'est trouvée intégrée assez tôt aux grands ensembles politiques qui ont gouverné l'Inde, et en particulier l'Inde du Nord. Je pense à l'empire d'Ashoka au IIIe siècle avant notre ère. Et donc, Mahastan se trouvait, a été fondée à cette époque et se trouvait donc à la limite orientale de cet immense empire. De la même façon, cette région se trouvera à l'extrême limite de l'empire Gupta entre le 4e et le 6e siècle de notre ère. Et par conséquent, cette région, sur le plan archéologique, sur le plan artistique, ne connaîtra une réelle autonomie, si je puis dire, qu'après la disparition de l'empire Gupta au 6e siècle. Ce n'est qu'à partir du 7e siècle que l'on voit une école de sculpture avec une couleur beaucoup plus locale se développer. Voici le premier témoignage épigraphique qui a été retrouvé non pas à Paharpur mais à Mahastan, qui date de l'époque Maurya et qui nous montre clairement que cet ensemble territorial se trouvait déjà intégré à l'histoire de l'Inde du Nord. Pour ce qui est du site de Paharpur même, le premier témoignage épigraphique est une inscription sur plaque de cuivre qui a été retrouvée en 1927 dans les débris accumulés dans la partie nord-est du déambulatoire de la deuxième terrasse du temple central. Cette inscription sur plaque de cuivre, donc c'est un document qui fait une quarantaine de centimètres de haut et qui, par définition, est une inscription mobile. Donc il n'est pas sûr qu'elle ait été à l'origine prévue pour se trouver à Paharpur, est datée de 159 de l'ère Gupta, ce qui donne 479 de notre ère. Et cette inscription précise qu'un couple de brahmanes, donc des gens hindous, ont fait un don de terre en faveur d'une institution religieuse. Selon Dixit, l'inventeur de cette inscription, cette institution religieuse était une fondation Jain. Vous le savez, le sous-continent indien a vu le développement de trois grandes religions qui sont propres à l'Inde, le bouddhisme et l'hindouisme qui sont les plus connus, mais également le jainisme. Et certains termes dans l'inscription ont fait penser à Dixit qu'il pouvait donc s'agir d'une fondation Jain qui, peut-être, je reviendrai là-dessus dans un moment, aurait et préexisté au monastère bouddhique de Paharpur. Cependant, plus récemment, des chercheurs occidentaux, en reprenant le texte de cette inscription, ont pensé qu'en fait, les termes qui désignaient, selon Dixit, une institution Jain, pouvaient être malgré tout bouddhiques. Donc il semblerait que sur ce monastère, qui pour le reste date plutôt du 8e siècle, il existait auparavant, avant la fondation du 8e siècle, sur laquelle je vais revenir, un monument plus ancien. D'autre part, nous avons au 7e siècle, aux alentours de 640, le récit d'un pèlerin chinois, une des grandes sources pour l'histoire de l'Inde, Yuan Tsang, et ce pèlerin chinois traverse le Bengale sur la route de l'Assam. Il évoque un certain nombre de sites que nous connaissons par ailleurs, Mahastan en particulier, le monastère de Bashubihar. Il évoque à différents endroits la présence de lieux de culte hindous et jaïn, mais curieusement, il ne parle pas du tout de Paharpur. Or, comme vous l'avez vu sur les photos précédentes, c'est quand même un monument qui était assez marquant sur le territoire. Et si c'était à l'époque un grand sanctuaire bouddhique, il est probable que Yuan Tsang nous en aurait parlé. Donc cela conduirait à penser qu'au 7e siècle, peut-être y avait-il un lieu de culte à cet endroit-là, mais il ne s'agissait pas encore d'un lieu de culte bouddhique. En fait, l'histoire de la région change à partir du 8e siècle, parce que la période des 6e et 7e siècles dans toute l'Inde du Nord est une des périodes les plus compliquées qu'il soit. Je dirais même que c'est une des périodes les plus compliquées de l'histoire de l'humanité. Et au 8e siècle, dans la partie orientale de l'Inde, va se développer un nouveau pouvoir, celui de la dynastie Pala, qui semble avoir été originaire de la région qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui va réussir à dominer une grande partie de l'Inde orientale et même un peu au-delà, donc ce qui correspond aux actuelles régions du Bengale et du Bihar. Par contre, la partie qui se trouvait à l'est du Brahmapoutre, qui est encore actuellement le Bangladesh, semble avoir en partie échappé au contrôle des Palas, et le site que j'évoquerai à plusieurs reprises, celui de Mainamati, présent ici, et qui aurait dû être illustré également dans l'exposition, semble avoir connu, lui, une vie assez autonome. Dans l'orbite de l'Empire Pala se trouve un certain nombre de sites que je vais évoquer au cours de cette conférence. La grande université de Nalanda, ici, et surtout un site extrêmement important dans l'histoire du bouddhisme, Bodh Gaya, qui est le lieu où le Bouddha a connu l'éveil. Donc évidemment, c'est un des grands lieux de pèlerinage du bouddhisme. Donc, avant de revenir à Bharpur, puisque je parle de monastère bouddhique, il n'est peut-être pas tout à fait inutile de préciser un peu ce qu'est un monastère bouddhique, puisqu'en effet, les premiers monuments qui apparaissent dans le bouddhisme sont ce que l'on appelle les stupas, c'est-à-dire ce type de tumulus qui sont censés abriter les reliques du Bouddha ou d'un personnage important. Il s'agit d'un monument plein, qui renferme juste une chambre avec les reliques, autour duquel on peut faire le tour en pénétrant dans une sorte de déambulatoire. Et il faut normalement faire le tour du monument en le gardant sur sa droite. Donc le Bouddha, dans la forme primitive du bouddhisme, prêche avant tout pour la communauté des moines, ce qu'on appelle le Sangha, puisque, en principe, l'accès à l'éveil dans le bouddhisme ancien est accessible uniquement aux moines et non pas aux laïcs. Les premières communautés monastiques sont des communautés errantes, qui sont donc qui vont à travers le pays pour propager la bonne parole. Et ces communautés doivent malgré tout se fixer à un moment dans l'année, c'est-à-dire durant la mousson, puisque la saison des pluies ne permet pas trop de se promener. Les premiers monastères qui vont naître sont des abris relativement provisoires, parfois même de simples grottes naturelles. Et puis, petit à petit, ces monastères provisoires vont se fixer et souvent, ils vont être associés à des lieux de pèlerinage. Donc, on va trouver très fréquemment, côte à côte, le stupa, qui est un monument de culte accessible à tous, et à côté, un monastère qui est tout simplement le lieu de résidence des moines et qui, de même que le monastère dans le christianisme, est constitué d'un ensemble de cellules avec parfois des salles de réunion pour l'ensemble de la communauté. C'est toujours sur le site de Sanchi, donc le site de Sanchi que l'on date à peu près du 2er siècle avant notre ère, et ici ce monastère qui lui est plus tardif, qui se trouve en contrebas de la colline. Les monastères bouddhiques vont se développer autour de deux grands types de monuments que l'on appelle d'une part le chaitya, c'est-à-dire le sanctuaire proprement dit, où les moines vont se retrouver pour réciter des prières, et d'autre part le vihara, le monastère même, qui est le lieu de résidence des moines. Et si vous me permettez une petite parenthèse humoristique, dans certains textes hindous, ancien, en particulier dans l'Arthashastra ou les lois de Manu, parfois le terme de Vihara désigne plutôt un lieu de plaisir, ce qui montre bien que les relations plutôt bonnes entre le bouddhisme et l'hindouisme n'empêchaient pas un certain nombre de pics. Alors sur ce site de Bhaja, qui est au Maharashtra, pas extrêmement loin de Bombay, donc nous sommes assez éloignés du Bengale, vous pouvez voir la coexistence dans ces sanctuaires excavés du chaitya, le lieu de culte, et des vihara, les cellules. Donc ici, le sanctuaire qui devait sans doute être fermé par une porte en bois, qui est voûté avec une colonnade et au fond duquel se trouve un stupa. Et de l'autre côté, les cellules des moines qui, vous le voyez, se marquaient par un confort tout à fait développé. Alors, l'histoire architecturale des monastères bouddhiques dans le sous-continent indien est extrêmement complexe, donc je vais aller à très grande vitesse pour vous montrer une évolution intéressante. Donc, nous sommes ici au Gandhara, dans le nord-ouest du sous-continent indien, et vous voyez le phénomène que j'ai décrit il y a un instant, la coexistence côte à côte du stupa, ici, entouré de stupas secondaires, et d'autre part, le monastère proprement dit, avec les cellules autour d'une cour. Les deux ensembles communiquent, comme vous le voyez, mais sont nettement séparés. Et aux alentours du 3e siècle de notre ère, dans le sud-est de l'Inde, dans ce qui est actuellement l'état d'Andhra Pradesh, on va voir une évolution assez intéressante commencer à se faire jour, dont finalement Parpour va être l'étape ultime. C'est progressivement l'inclusion au sein du monastère proprement dit de lieux de culte. Alors, sur le site numéro 3 de Nagarjunakonda, nous avons toujours séparé du monastère le stupa, mais vous voyez que dans l'enceinte du monastère, on trouve deux chaityas et deux salles en abside, dont l'un contenait un petit stupa et l'autre une statue du Bouddha adossée au fond de l'abside. Et puis, un tout petit peu plus tard, entre le 3e et le 5e siècle, le monastère de Shankaram, qui n'est pas très loin de Nagarjunakonda, on retrouve encore le stupa qui se trouve à l'extérieur, mais à l'intérieur du monastère, et cette fois-ci au sein de la cour, à ce sanctuaire, ce chaitya, qui donc commence à occuper une place centrale. Et finalement, l'évolution ultime ces plans, ça va être marqué à l'époque Pala, justement dans tout le nord-est de l'Inde, par la présence en plein milieu de la cour du monastère, d'un monument qu'on va combiner les aspects du stupa, c'est-à-dire ce monument central autour duquel on va tourner, qui est donc plein en son centre, et la présence de salles pour le culte, qui rappelle les viharas, les chaityas, pardon. Et tout autour, donc, vous avez les cellules des moines. Donc, il s'agit ici plan donc de notre monastère de Parpour, qui, d'après des sceaux qui ont été retrouvés sur le site, semble avoir été fondé par un des grands souverains de la dynastie, Dharmapala, dont les dates approximatives sont 770-810. Donc il semblerait, c'est du moins la thèse habituellement avancée, que le monastère de Parpour, ou de Somapura pour lui donner son nom ancien, a été fondé à la fin, dans la seconde moitié du 8e siècle. Et lorsqu'il a été retrouvé au 19e siècle et lors des fouilles des années 20-30, on a eu tendance à considérer que c'était un exemple unique. Depuis, on a retrouvé quand même d'autres monastères au sein du royaume Pala qui ressemblent fortement à Parpour, en particulier du côté indien du Bengale, le monastère de Vikramashila qu'on reconnaît sur le site d'Antichak. Donc je vous montre une photo ici, et en fait le plan de Vikramashila est à peu près similaire à celui de Parpour, les deux monastères étant probablement contemporains. Il est, dans l'état actuel des choses, impossible de savoir lequel a précédé l'autre. Mais Parpour est en meilleur état. Donc j'en reviens maintenant à Parpour pour vous présenter une description un petit peu plus précise de cet ensemble, pour vous donner une idée. Le mur d'enceinte qui clôture la cour est à peu près carré. Il y a une différence d'un mètre uniquement, donc de 281 sur 280 mètres, ce qui est un ensemble tout à fait considérable. L'ensemble des structures se trouve rassemblé dans l'enceinte et dans la cour qu'il renferme, à l'exception de cette petite excroissance au sud. Ce petit bâtiment, qui était relié à l'enceinte par une porte et une sorte de passerelle, était un bâtiment que l'on appellera pudiquement pour les ablutions. C'était sans doute les toilettes du monastère. Et il se trouvait également dans cet angle-ci un bassin pour les ablutions. Donc, ce qui est remarquable sur ce plan, donc, c'est la forte axialité du monument central dans une cour complètement carrée, avec un accès très fortement marqué sur le nord, qui est la seule porte réelle du monastère, puisqu'on trouve aux quatre points cardinaux d'autres formes de pavillons, mais qui ne sont pas des portes réelles, il n'y a pas de passage vers l'extérieur. D'autre part, la terrasse nord du temple central est un petit peu plus avancée vers le nord, donc ce qui montre que cet axe était largement privilégié. Vous allez le voir à différentes reprises, et je passerai dans cette conférence longtemps à passer des photos anciennes aux photos plus récentes. L'état actuel du monument ne nous permet pas forcément d'avoir une lecture évidente de ce qui était l'aspect initial du monument. Et en particulier, cela est frappant pour justement cet accès nord, tout ce qui se trouvait entre la porte d'enceinte, qui se trouvait ici, et le temple central, puisque vous voyez lors des fouilles des années 30, on y a dégagé un certain nombre de structures qui, depuis, ont été complètement recouvertes et qui, évidemment, ne changent complètement l'aspect. Et à l'époque où Dixit a fait ses fouilles, il y avait ici, vous le voyez peut-être sur l'image, il y a une sorte de trou rempli d'eau. Donc Dixit n'y a pas accordé une énorme importance, pensant que c'était simplement une dépression formée au fil des siècles et qui donc était réunie par les eaux de pluie. En même temps, il est peu probable qu'il s'agisse simplement d'un accident. Et si l'eau s'accumulait à cet endroit-là, c'est probablement parce que la dépression avait été creusée. D'autre part, on constate qu'il y a une sorte de déclivité légère de l'ensemble de la cour du sud vers le nord, ce qui permettait donc de rassembler les eaux d'écoulement dans cet ensemble. Ce qui donc tendrait à faire penser qu'il y avait à l'entrée du temple un bassin qui se trouvait donc quasiment dans l'axe du temple central. Vous voyez ici le bassin en bleu. Et ce bassin, donc, il me semble que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment étudié, permettait donc certes d'accomplir quelques ablutions, mais surtout d'obtenir un reflet du monument lorsqu'on se trouvait dans l'axe. Et peut-être trouverait-on là une des pistes qui ont conduit à cette recherche des effets perspectifs qui est si fréquente dans l'architecture d'Asie du Sud-Est. Et je vous montre évidemment un exemple bien connu du Cambodge, le temple d'Angkor Wat, où l'effet de reflet du monastère dans les deux bassins qui se trouvent de part et d'autre de la chaussée n'est pas du tout un effet voulu pour les touristes, mais c'était quelque chose qui a été voulu par les concepteurs du temple. Et je me demande, donc c'est une hypothèse que je lance, si nous n'avions pas déjà, donc 4 siècles avant Angkor Wat, une première tentative d'un effet de ce genre au Bengale. Bengale dont on sait par pas mal de points qu'il a fortement influencé l'Asie du Sud-Est. Alors voici l'état actuel du temple central. La photo est prise par le sud. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu sur le plan, d'un monument cruciforme redenté qui, dans sa plus grande largeur, fait 27 mètres de haut. Et à l'heure actuelle, évidemment, toute la superstructure manque. La hauteur est d'à peu près 22 mètres. Donc ce temple central était précédé par une structure qui nous est à présent mal connue au nord. Il y avait sans doute un premier pavillon hypostyle. Et on accédait au temple par un escalier uniquement sur la face nord. Donc voilà la photo des années 30. Le temple s'élevait sur 3 niveaux d'élévation par un jeu de terrasses successives. Il était probablement entouré par un mur, une sorte d'enceinte assez rapprochée, qui délimitait l'espace de circumambulation, comme vous avez pu le voir sur le stupa de Sanchi précédemment. Malheureusement, pour des raisons qui tiennent avant tout à la conservation, notamment au problème des infiltrations, il a été décidé de remblayer la cour. Et donc, en fait, vous allez voir des photos plus anciennes, le monument, tel que vous le voyez, est en partie enterré. Et donc, ce qui a l'air d'être un petit chemin de ronde permettant de faire le tour du monument, surtout lorsque, après la pluie, l'herbe est un peu trempée, correspond plus ou moins au mur qui devait entourer l'ensemble du temple et délimiter l'espace de circumambulation. Donc vous voyez ici les fouilles en cours dans les années 30. Donc voilà le niveau actuel de la cour. Et donc le dégagement a permis de s'apercevoir qu'en fait, cette frise de plaques de terre cuite n'était pas au ras du sol, mais était au contraire le couronnement du mur de la première terrasse du temple. Et en dessous de cette frise, on a retrouvé un ensemble considérable de sculptures en pierre, sur lesquelles je reviendrai dans un instant, 63 reliefs qui scandent ainsi tout le mur sur les quatre faces du monument. Et vous pouvez imaginer, évidemment, que si on avait dégagé complètement la cour, non seulement on aurait pu apprécier la vue de ces reliefs, mais également le monument se serait trouvé considérablement rehaussé. Donc voici quelques vues de ces bas-reliefs qui, la plupart du temps, sont concentrés sur les angles des différents ressauts du monument. Et donc voilà ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc évidemment, on perd à peu près 1,50 m sur la hauteur totale du monument, ce qui en change considérablement l'aspect. Donc, sur le premier niveau, il y avait donc ces bas-reliefs en pierre, surmontés par une frise de terre cuite. Ces terres cuites, ces plaques, on les retrouve sur le mur de refonte de la seconde terrasse. Cette fois-ci, deux frises. La terrasse, semble-t-il, était à ciel ouvert. À la différence de la terrasse supérieure, qui, vous voyez, était entourée d'un mur qui était probablement recouvert. Donc nous avions cette fois un déambulatoire couvert, comme dans beaucoup d'autres monuments. On pouvait donc faire le tour du monastère tout d'abord par l'extérieur, dans ce déambulatoire. Puis on montait sur le monument, on refaisait le tour une fois à ciel ouvert et une seconde fois à couvert. Et sur la terrasse supérieure, donc ce déambulatoire conduit aux quatre salles qui donc marquent les quatre branches de cette croix grecque et qui viennent toutes buter sur le massif central qui, lui, se trouve plein, bien qu'il y ait on puisse accéder quand même à une chambre. Il y a un puits qui descend sur toute la hauteur du monument. Donc, vous voyez que nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, une sorte de combinaison en un seul monument du stupa, ce tumulus, qui cette fois a pris une forme plus architecturée, mais on a toujours au centre cet ensemble plein, capable de contenir une chambre avec des reliques, et d'autre part des salles de culte des Chaitya qui se trouvent aux quatre points cardinaux. Tout autour du monument donc, se trouvaient les cellules des moines qui, à l'heure actuelle, sont au nombre de 177, ce qui est tout à fait considérable. Si vous avez encore en tête les plans que je vous montrais au début de cet exposé, on comptait à peine une vingtaine de cellules. Donc là, on est passé à une échelle tout à fait considérable. Les cellules donc, qui sont en briques étaient séparés de la cour par une sorte de déambulatoire, ce que l'on appelle dans les langues indiennes une véranda. Donc c'est un des rares mots indiens qui nous soit parvenu, donc qui ouvrait sur la cour, qui se trouve là. Et chacune de ces cellules était de taille relativement grande pour un temple, un monastère bouddhique, séparée par des murs particulièrement épais. Mais les fouilles ont montré qu'elles ont fait l'objet d'un certain nombre de reprises. Et sans doute, à date tardive, certaines de ces cellules ont été transformées en chapelles, puisqu'on y a trouvé des sortes d'autels ou de piédestals en maçonnerie, qui donc ne permettaient pas d'installer un lit, mais on devait y mettre une statue de culte. Ce qui pouvait aussi indiquer que vers la fin de l'histoire du monument, avant le XIIe siècle, lorsqu'il est abandonné, la communauté monastique avait décru et que donc on avait reconverti un certain nombre de cellules devenues inutiles en chapelles. Les fouilles de Dikshit ont permis de déceler quatre phases de construction pour le temple central et trois phases de construction pour les cellules. Et ce que l'on voit en fait actuellement correspond à la phase numéro 2, c'est-à-dire la phase intermédiaire. Donc on a donc supprimé la phase la plus récente. Malheureusement, je vous le disais, on a le rapport de fouilles de 1938, il y a eu d'autres fouilles depuis, mais jusqu'à présent, l'histoire architecturale du monument reste à l'état d'ébauche et la datation d'aucune de ces phases n'est connue précisément. Et notamment, un problème assez important subsiste, c'est qu'on n'a pas tout à fait établi de correspondance entre les phases de construction du temple et les phases de construction des cellules. Quant à la cour, elle est occupée par un certain nombre de structures annexes, de petits stupas votifs, comme c'était souvent l'usage dans les grands monastères, mais également des bâtiments de commun, en particulier les cuisines. Ces bâtiments, comme vous l'avez vu sur le plan, sont surtout concentrés dans la partie sud-est de la cour. Enfin, pour être complet, il y a à l'extérieur des murs, un petit peu plus à quelques centaines de mètres au sud du monument, un petit temple, appelé à l'heure actuelle Satyapirbita, qui est consacré à Tara, cette figure féminine du panthéon bouddhique qui est la contrepartie des grands bodhisattvas, en particulier du bodhisattva Avalokiteshvara. Et ce temple de Tara, qui à l'heure actuelle ne subsiste plus qu'à l'état d'une grande terrasse en briques maçonnées, est entouré par de très nombreux stupas votifs, dont on ne voit plus guère que les soubassements, qui semblent avoir été le fruit de dons de différents personnages. Donc c'est un ensemble assez désordonné à l'heure actuelle. Ce temple paraît être daté grâce à une inscription du XIIe siècle, donc c'est une adjonction assez tardive à l'histoire du monument, sans doute vers la fin de son histoire. Je voudrais donc maintenant, après avoir présenté l'organisation spatiale du monument et son architecture, vous parler un petit peu plus précisément de la sculpture. Je vous disais donc que les fouilles ont permis de dégager à la base du temple 63 reliefs en pierre qui étaient enfermés dans des niches, surtout sur les angles, mais pas uniquement. Et ces bas-reliefs sont un des gros problèmes que nous pose le monument. En effet, dès leur découverte, on s'est rendu compte que les styles étaient assez différents, ce qui avait pu conduire à penser qu'ils dataient d'époques différentes. Je serais plutôt d'avis, je ne suis d'ailleurs pas du tout le premier à le penser, qu'en fait, on a la présence de trois ateliers qui pouvaient malgré tout être parfaitement contemporains. Alors, le problème, je vais revenir dans un instant là-dessus, c'est que tous ces reliefs, à l'exception d'un qui est visiblement beaucoup plus tardif que les 62 autres, représentent des divinités hindoues. Ce qui, évidemment, dans un monastère bouddhique, est assez problématique. Et cela a conduit beaucoup de chercheurs à penser qu'en fait, ces bas-reliefs provenaient d'autres monuments et avaient été réutilisés. Je vais revenir dans un instant là-dessus. Je vous dis tout de suite que c'est une explication qui ne me convainc absolument pas. On y voit donc des figures assez variées. Vous avez ici une représentation de la déesse Yamuna, une déesse fluviale donc ce principal affluent du Gange, mais les deux divinités que l'on retrouve le plus fréquemment dans ces reliefs, c'est la figure de Shiva, le dieu de la destruction dans l'hindouisme, et surtout celle de Krishna, parfois sous des aspects narratifs. Ici on voit Krishna combattant des démons avec l'aide de son frère Balarama, et voici deux exemples de ces reliefs qui font partie des 4 ou 5 reliefs qui ont été enlevés du monument et présentés dans le petit musée du site et que vous avez presque réussi à voir dans cette exposition. Donc l'une qui représente ici Krishna luttant contre le démon Keshin qui a pris l'aspect d'un cheval et d'autre part son frère aîné Balarama que l'on reconnaît généralement à son arrière et à son capuchon de cobra. Ce sont des reliefs que l'on date, d'après leur style, des alentours du 7e siècle, donc qui seraient antérieurs au monument, si du moins on continue à penser qu'il a bien été fondé à la fin du 8e siècle par Dharmapala, puisque ces bas-reliefs dérivent assez clairement du style Gupta, c'est-à-dire le grand style de sculpture en vogue dans le nord de l'Inde entre le 4e et le 6e siècle de notre ère. À côté de ces 63 reliefs en pierre, donc l'essentiel de la sculpture est constitué par les plaques de terre cuite que j'évoquais déjà dans la description architecturale. Le travail de la terre cuite est particulièrement important dans une région comme le Bengale, qui est en fait complètement dépourvue de pierre. Et donc la plupart des monuments sont décorés de plaques qui tantôt adoptent des motifs décoratifs géométriques, tantôt sont beaucoup plus narratifs. Et c'est un art qui continue à se perpétuer à l'heure actuelle au Bangladesh. Cela étant, Parpour est sans doute l'exemple le plus achevé de cet art de la terre cuite. On y dénombre à l'heure actuelle 2800 plaques. Donc, ce qui indique qu'il y en avait beaucoup plus, puisque vous avez vu sur les photos précédentes que beaucoup de plaques ont disparu à cause du passage du temps. Et ces plaques sont extrêmement vivantes, extrêmement variées. On en trouve quelques-unes qui représentent des personnages du bouddhisme, enfin ici le Bouddha, ce qu'on s'attend effectivement à trouver sur un monastère bouddhique, mais on trouve aussi quelques divinités hindoues, ici Ganesha, que vous avez sans doute reconnu. Cela étant, la plupart de ces sculptures sont purement décoratives ou évoquent des scènes tout à fait folkloriques, peut-être illustration de légendes locales ou de contes. On a pu reconnaître sur certaines figures des contes du célèbre recueil indien du Panchatantra. Beaucoup de ces sculptures ont été déposées et se trouvent plus ou moins bien conservées dans les réserves du musée. Mais je reviendrai dans un instant là-dessus. Et pour en finir avec la sculpture, je voudrais vous montrer quand même une découverte relativement récente. En 1982, dans la cellule numéro 34 de l'aile Est, on a mis au jour ce Bouddha en bronze qui, vous le voyez, a été détruit. Il était fortement abîmé par l'incendie. Il lui manque évidemment les jambes. Dans l'état actuel, il fait 1,30 m de haut, ce qui indique que complet, il devait dépasser les 2 mètres, ce qui est tout à fait considérable pour un bronze que l'on peut dater sans doute du 9e siècle. Et cela est aussi une des pièces que malheureusement vous ne verrez pas au musée Guimet. Alors, avant d'évoquer la question de l'état du monument à l'heure actuelle, je voudrais revenir sur deux questions qui, à mon sens, mériteraient un examen plus approfondi. Tout d'abord, la question du plan de ce monastère et des origines de ce plan. En effet, pour Dixit, il le dit à plusieurs reprises dans son rapport final en 1938, ce plan semble tout à fait nouveau s'il le compare aux autres sites qui étaient à l'époque connus, et en particulier au site de Nalanda. Depuis 1938, la découverte d'autres sites permet de nuancer quelque peu ce jugement. Donc vous voyez, ici à Nalanda, on retrouve un phénomène assez... on pourrait voir ici un temple relativement proche de celui de Parpour, mais il est assez distinct des ensembles monastiques qui se trouvent ailleurs sur le site. En revanche, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le site de Mainamati, que j'ai évoqué très brièvement, donc qui se trouve plus à l'est, du Brahmapoutre, et qui échappait au pouvoir de la dynastie Pala, on a retrouvé un certain nombre de monastères que l'on peut dater sans doute plutôt du 7e siècle, donc qui seraient antérieurs à Parpour, et où on retrouve, à une échelle à peine plus réduite, notamment dans le monastère dit Chalban Vihara, cet ensemble de cellules avec un temple central qui, dans son état primitif, était en croix comme Parpour. Toute cette adjonction est plus tardive et relève d'une deuxième phase de construction. D'autre part, des sondages récents effectués par le département de l'archéologie du Bangladesh dans les années 80, 90 et même début 2000 ont mis en valeur le fait qu'il y a sous le monastère que nous voyons à l'heure actuelle des structures plus anciennes. Alors, s'agissait-il... Ces structures ne sont connues que par des sondages, donc ça ne permet pas de se faire un avis de l'ensemble de ces restes. S'agit-il du monastère Jain dont parlait Dixit ? S'agissait-il d'un monastère bouddhique plus ancien, comme on pourrait le penser ? Ce sont deux possibilités, ce sont celles qui sont généralement présentées. Pour ma part, si je reviens à la question des reliefs hindous, Je pense qu'il faudrait peut-être réexaminer la question. En effet, comme je vous l'ai dit, ces reliefs, difficiles à dater puisqu'on ne dispose que du style pour le faire, sont visiblement antérieurs au 8e siècle. Alors, venaient-ils d'un autre monument ou se trouvent-ils à leur emplacement d'origine ? J'avoue que je ne vois pas très bien pourquoi, si on a bien affaire à une fondation royale, on aurait été prélevé de ces 63 blocs de pierre, qui sont quand même de belle taille. Je peux vous dire, pour avoir assisté à l'emballage de 4 d'entre elles et à leur transport jusqu'à Dakar, que ce n'est pas une mince affaire. Et encore, nous avions des appareils de levage et des camions. Donc, pourquoi aurait-on pris la peine de prélever 63 blocs déjà sculptés sur d'autres monuments, monuments dont, par ailleurs, on ne trouve absolument pas la trace ? D'autre part, cela ne règle pas du tout la question de savoir pourquoi on aurait mis des divinités hindoues dans un monument bouddhiste. Alors, il est évident que nous sommes dans une région de bouddhisme relativement tantrique, avec un panthéon élargi, qui laissait la place à certaines divinités hindoues comme divinités secondaires. Cela étant, s'il ne s'agissait que de divinités représentées seules, on pourrait penser qu'on avait réalisé à la base du temple une sorte de diagramme, ce qu'on appelle un mandala, donc de divinités protectrices tirées du panthéon hindou qui auraient protégé le temple bouddhique. Cela étant, le fait de représenter de nombreux mythes, et non pas simplement des divinités, des mythes de l'enfance de Krishna, il y a également des scènes tirées du Ramayana, me semble assez peu convenir à cette théorie d'un mandala qui a peut-être été acceptée comme telle dans un second temps, mais j'aurais tendance à penser, c'est une hypothèse certes un petit peu gratuite mais que je vous soumets en tant que telle, que le monastère de Barpur n'aurait été en fait fondé avant le 8e siècle, peut-être au 7e siècle, comme un temple hindou laissé inachevé. C'est pour ça que, passant dans la région, Yuansang n'en aurait pas parlé, puisque ça, ce qui n'était pas bouddhiste ne l'intéressait pas trop. Ce temple laissé, simplement le premier niveau du temple construit, aurait été repris au 8e siècle par la nouvelle dynastie des Pallas, qui l'aurait transformé en monastère bouddhique. Mais évidemment, cela demanderait de poursuivre l'analyse et peut-être aussi de reprendre un certain nombre de fouilles. L'autre question qui peut vous intéresser, c'est de savoir à quoi ressemblait ce monument lorsqu'il était complet. Et notamment, à quoi ressemblait la superstructure qui couronnait le temple central. À partir des vestiges, toujours visibles, et également par comparaison avec des monuments que l'on peut trouver en d'autres régions du sous-continent indien, mais également d'Asie du Sud-Est, on peut proposer deux modèles possibles pour la superstructure du temple de Barpur. D'une part, nous avions la possibilité que la structure centrale ait été couronnée par une forme de stupa, donc ce monument campaniforme surmonté d'une flèche, qui renforcer l'image du temple comme étant en même temps un stupa. Et cette reconstruction, elle nous est en partie autorisée par la comparaison qu'on peut faire avec des temples se trouvant en Birmanie, et en particulier sur le site de Pagan, site plus tardif, des temples du XIIe, XIIIe siècle. Mais évidemment, si on compare avec le plus célèbre des monuments de Pagan, la pagode d'Ananda, vous voyez le plan redenté avec des niveaux qui vont en se superposant est assez proche quand même de celui de Barpur, avec cette flèche entièrement recouverte d'or, donc la pagode d'Ananda à la fin du XIIe siècle. Et à la base de la pagode d'Ananda, on retrouve des plaques de terre cuite vernissées cette fois, donc c'est un peu différent, mais on voit en tout cas que ces monastères, ces temples de Birmanie ont pu être influencés par les temples du Bengale. Et à vol d'oiseau, on n'est quand même pas très très loin. Il suffit de franchir la petite chaîne de montagnes de la Rakhine. Le Bangladesh a à l'heure actuelle une frontière commune avec la Birmanie. Vous voyez également la pagode de Damayangi, qui est un petit peu plus tardive que celle de d'Ananda. Mais on voit bien aussi, rien qu'avec le départ, qu'elle était surmontée d'une flèche campaniforme, exactement comme l'exemple précédent. L'autre possibilité, c'est que le temple central ait été surmonté par une superstructure de type curvilinéaire, telle qu'on peut les voir sur les temples aussi bien hindous que bouddhistes du nord de l'Inde. Et l'exemple le plus célèbre de ce type de superstructure dans un contexte bouddhique, c'est le temple de l'éveil à Bodh Gaya, qui dans son état actuel a été fortement restauré au XIXe siècle, mais qui quand même nous donne une idée de ce qui était le temple à l'origine, temple dont je vous disais qu'il est important puisqu'il a été construit sur le lieu où le Bouddha est censé avoir atteint l'éveil et qui se trouvait dans l'empire Pala, donc qui pouvait constituer là aussi une source d'inspiration pour Bharpur. D'ailleurs, on sait que ce temple de Bodh Gaya a servi d'inspiration à de nombreux monuments, aussi loin que la Mongolie en fait, mais sans aller jusqu'en Mongolie, je vais retourner rapidement à Pagan, en vous montrant la copie du temple de Bodh Gaya qui a été réalisée aussi au XIIIe siècle sur le site de la capitale birmane. Et évidemment, si on va de Bodh Gaya jusqu'en Birmanie, bien en chemin, il y a le Bengale. Et donc, il est possible aussi que l'on ait eu à Bharpur une superstructure de ce type-là. Alors pour terminer cette intervention, je voudrais vous parler un petit peu, et là mes propos vont, je crains, devenir un petit peu négatifs, vous parler de l'état actuel du monument. Donc dégagé dans les années 30, le monument devenait visitable, accessible aux visiteurs. Enfin, il faut quand même aller jusqu'à Bharpur, et vu l'état de la route, il faut être assez motivé. Mais toujours est-il qu'on peut y aller, et une fois que le monument était dégagé, il fallait l'entretenir. Le gros problème, c'est les pluies de la mousson, les infiltrations d'eau, qui ont donc posé de nombreux problèmes. Et ce sont ces problèmes d'infiltration qui expliquent que l'on ait remblayé le fond de la cour, et donc, comme je vous l'ai dit, ne permettent plus de voir le monument exactement dans son intégralité. Par ailleurs, ce monument, je le disais en commençant, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas toujours une très bonne chose, puisque ça permet que beaucoup d'argent arrive sans que ce soit très très bien contrôlé. Et donc, pour l'inscription à l'UNESCO, on a voulu un petit peu retaper tout ça. Donc, première urgence, pour les gens qui n'aiment pas la route, on a construit un héliport. Donc, vous voyez ici les vestiges du petit temple de Tara qui est à l'extérieur du temple. Donc, une dalle de béton coulée sur le site. C'est pas encore ça le plus grave, mais enfin, c'était pas absolument indispensable. D'autre part, je suis désolé pour la mauvaise qualité des photos, donc vous voyez que de nombreuses briques ont été changées. Donc les restaurations ont été parfois un petit peu hardies, on va dire ça comme ça. Ce qui pose parfois un certain nombre de problèmes. Alors je vous en montre quelques exemples. Là, nous sommes à la base du temple central. Les photos des années 30 nous permettent de savoir qu'il y avait quelques structures qui se trouvaient parfois à la base du temple, et en particulier ici, un petit bassin, sans doute pour recueillir des eaux pour les ablutions. Enfin, on ne sait pas encore très bien, ça n'a pas été étudié à fond. Toujours est-il que voici l'état dans les années 2000. Donc, comme partout ailleurs dans la cour, on a recouvert, vous voyez, à ce niveau, on voit bien ici le niveau de la tranchée. Donc la tranchée a été recouverte, et à l'heure actuelle, quand vous passez ici, rien ne vous permet de supposer qu'il y a ce type de structure sous vos pieds. Ça encore, c'est pas trop grave. Un autre endroit, donc vous voyez à peu près au même niveau, puisque vous voyez bien les deux des 63 reliefs en pierre, on constate très clairement qu'il y a eu ici, à époque ancienne, une reprise du monument, où il devait y avoir dans une première phase un accès, sans doute, peut-être un escalier, qui a été remblayé lors d'une seconde phase ou une phase ultérieure de construction. Or, lors de la restauration récente, on reconnaît bien les plaques qui se trouvent ici et là, vous les retrouvez là, eh bien, cette intervention au niveau du mur, puisque toutes ces briques sont neuves, a complètement disparu. Et donc, voilà une partie de l'histoire architecturale du monument qui a disparu. Et un des gros problèmes, c'est celui des plaques de terre cuite. Ces plaques sont fragiles. La terre cuite, évidemment, ça se casse facilement. Les eaux peuvent les abîmer. Ça peut également se voler. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, il a été décidé, ce qui n'était pas en soi condamnable, de déposer un certain nombre de plaques, de les conserver dans le musée ou dans ses réserves et de les remplacer. Mais au lieu de réaliser des moulages, de véritables moulages, on a demandé à des artisans locaux, qu'on n'a pas à blâmer, mais enfin qui n'étaient pas forcément qualifiés pour ce faire, de réaliser des copies dans le genre, dans le style. Alors vous voyez peut-être sur la photo, là, un de ces artisans devant les originaux et qui fait à main levée un modelage de certaines des plaques. Et vous voyez ici une comparaison entre des plaques d'origine, certes très abîmées, avant leur dépose, et les nouvelles plaques. Alors vous pouvez voir la part d'imagination quand même sur la queue du serpent. Et si vous faites attention, là la tête est assez abîmée de ce personnage assez étrange. Là on a une sorte de panda ou d'ours, enfin je ne saurais pas trop quoi vous dire. Donc c'est un peu imaginaire au niveau du visage. Mais si vous regardez la position des bras, c'est à peu près la même chose, mais à peu près seulement. Et puis surtout, ce que l'on constate, c'est qu'une partie, il y a eu à côté de ça des vrais moulages. Et là, vous avez une plaque originale, photo des années 30, et là, une œuvre trouvée sur le marché, dont on peut voir, en fait, c'est tout à peu près la même, sauf que le visage qui était abîmé se trouve ici complet. La position du visage n'est pas exactement la même, le visage a été redressé. Cependant, si vous regardez attentivement, je vous demande un peu de me croire sur parole parce que, évidemment, les photos ne vous permettent pas vraiment de vérifier ce que je vous dis. La position de l'oreille gauche du personnage, qui est tout à fait logique ici, l'est beaucoup moins là parce qu'il a l'oreille quasiment au niveau du cou. Et il y a aussi, à ce niveau-ci, une fissure qui se trouve exactement là. Donc la fissure qui est tout à fait logique sur une œuvre ancienne, sur une œuvre récente n'a pas lieu d'être. Donc il y a visiblement eu un surmoulage de cette plaque ancienne avec une reprise du visage évidemment plus attrayant une fois complet et plus facile à vendre. Donc voici un des gros problèmes que posent ces plaques de terre cuite. D'autre part, il semblerait que les potiers anciens, les coroplastes de l'époque Pala étaient assez doués. Par contre, à l'heure actuelle, les procédés de cuisson ne doivent pas être très satisfaisants, car vous voyez l'état actuel des plaques récentes, donc qui, à l'époque où j'ai pris la photo, avaient moins de 10 ans. Donc, ils souffrent elles-mêmes des problèmes d'infiltration. Et puis donc, je vous disais, on remplace par des plaques qui ne sont pas tout à fait, qui sont de pâles imitations des plaques d'origine, et en plus, on ne les replace pas systématiquement au bon endroit. Voilà, donc la photo des années 30, photo des années 2000, donc un premier décalage. Là, nous avons pour le coup une véritable inversion. Et vous pouvez aussi apprécier la qualité des copies par rapport aux originaux. Là, il a un décalage d'une unité. Et quelque chose de plus gênant, là, nous avons une plaque assez amusante qui est d'abord assez belle, qui représente un lion en train de regarder dans un puits. Et cette plaque, c'est une de celles que l'on peut raccrocher à une histoire. C'est un des contes du Panchatantra, donc, qui montre bien cette inspiration folklorique de ces plaques de Paharpur. Or, cette plaque, qui est une des plus célèbres du monument, elle se trouve actuellement dans les réserves du musée, comme vous pouvez le constater. Elle n'a pas été remise en place et on a mis quelque chose qui... On a certes un lion, mais un lion cabré qui n'a strictement rien à voir et même pas au bon emplacement. Donc, je finis peut-être est-ce mon amertume après l'annulation de l'exposition. Je termine cet exposé sur une note un petit peu négative. Cela étant, je voulais vous montrer, pour terminer, cette photo du monument au moment du coucher du soleil, pour vous montrer qu'il ne manque malgré tout pas de charme, que c'est un monument qui est tout à fait fascinant. Certaines des questions qu'il nous soumet ne pourront, je pense, jamais être résolues. Certaines parce qu'elles sont de toute manière insolubles, d'autres, comme vous l'avez vu, parce que les interventions récentes, l'histoire du XXe siècle font qu'une partie de l'histoire architecturale et archéologique du monument a été, sinon effacée, du moins assez brouillée. Il reste, je pense, cependant, beaucoup de travail à faire sur ce monument et je souhaite que, malgré tout, les travaux qui ont été entrepris ces dernières années, l'apparition, malgré tout, d'un catalogue qui sortira très prochainement également dans une version anglaise, permettra d'attirer l'attention générale sur ce monument qui mérite, je pense, d'être davantage connu. Je vous remercie pour votre attention.
Si vous souhaitez poser des questions à Vincent Lefebvre, il y a deux micros qui vont circuler dans la salle. Donc n'hésitez pas à lever la main. À moins que Vincent Lefebvre ait tout dit. Mais...
Vous avez mentionné Tara comme un équivalent, si j'ai bien entendu, de la déesse de compassion, c'est ça ?
Quoi donc ? Tara ?
Oui.
Tara, oui, c'est la parèdre d'Avalokiteshvara. Enfin, elle a beaucoup d'autres sens, mais...
Ah, c'est ça, oui.
Si vous voulez, alors là, je pourrais faire une conférence entière sur la figure de Tara, mais voir... on a rempli des encyclopédies avec la figure de Tara, mais disons, oui, pour simplifier les choses à très grands traits, c'est la principale figure féminine du panthéon bouddhique, dans sa forme tantrique essentiellement, qui se caractérise par sa compassion, comme d'ailleurs les bodhisattvas, et c'est celle qui lève les obstacles qui peuvent nous tomber dessus dans cette existence et les suivantes.
Mais alors Tara, c'est dans le bouddhisme alors ?
Ah oui.
C'est ça.
D'autres questions ?
Excusez-moi. Sans remuer le fer dans la plaie, pouvons-nous espérer qu'à la faveur d'une évolution, le travail que vous avez entrepris pour l'organisation de cette exposition sera repris et couronné de succès ?
N'étant pas devin, je vais avoir du mal à répondre à cette question.
Oui. À la faveur d'une évolution ?
Ben, si vous voulez, il faudrait déjà qu'on voit cette évolution se faire jour. Et en fait, une grande partie des problèmes que nous avons rencontrés sont de nature politique. Donc là, pour l'instant, la situation nous dépasse largement. Par ailleurs, au musée Guimet, nous avons une programmation d'exposition qui court à l'heure actuelle jusqu'en 2011. On a d'autres choses de prévues, des choses un petit peu plus solides. On verra bien. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Mais dans l'immédiat, je vois mal cette exposition avoir lieu. Oui. Compte tenu, si vous voulez, la presse française en est fait l'écho ces derniers temps, au moment où les difficultés ont atteint leur summum, mais ils ne donnent qu'un pâle écho des 6 mois qui ont précédé et surtout ne permettent pas du tout de voir ce qu'a été le déchaînement dans l'opinion publique et dans la presse bangladaise. Dans ce contexte-là, il est pour le moins nécessaire que les passions s'apaisent. Et je pense, puis je ne vous cache pas, que je parle au nom de Jean-François Jarry, mais également au mien, que notre enthousiasme est un petit peu émoussé.
Merci.
Merci. Voilà, juste quelques mots à propos de votre évocation de l'Ananda de Pagan et des plaques vernissées. Les plaques vernissées de Pagan, si je me souviens bien, représente en grande partie des Jataka. Oui. Donc, quand vous dites Panchadantra, pour les gens qui sont néophytes, il faudrait peut-être dire que les Jataka font partie du folklore indien, qui peut être bouddhiste ou hindou, et récupérer ce qui n'était peut-être pas compréhensible. C'est juste ce détail-là. Et donc, je vais continuer si je peux. Est-ce que dans les plaques de Baharpur, on a retrouvé ou pensé à retrouver, ou est-ce qu'il est possible, d'avoir des contes indiens, entre guillemets, qui seraient justement des Jataka plus ou moins adaptés?
C'est pas évident, parce que effectivement, les plaques de Pagan forment un ensemble assez cohérent. On identifie assez bien les scènes, elles ont été étudiées. Alors qu'à part pour, il y a certaines, comme celle que je vous ai montrée, du lion qui regarde dans le puits, donc là, ça fait référence à quelque chose d'assez précis. Pour le reste, on ne voit pas. Ça semble être souvent décoratif. Beaucoup de scènes. Enfin, je pense pas qu'il y ait. Ça n'a pas été suffisamment étudié. En plus, le gros problème que l'on a à l'heure actuelle, c'est que la dépose de ces plaques, le fait de mettre de mauvaises copies à la place et surtout pas à la bonne place, ne permettent pas de voir s'il y avait une grille de lecture particulière. Mais même avant cela, on n'avait pas réussi à déceler, enfin, ponctuellement, pour connaître une scène ou une autre, mais parfois on a juste un personnage isolé. Et je ne pense pas qu'on ait eu, comme à Pagan, un ensemble cohérent, avec un véritable récit.
Voilà, merci, vous avez bien répondu à ma question. Pas d'ensemble, donc cohérent probablement. Merci.
Je voudrais remercier le conférencier d'avoir fait une exposé aussi brillante sur l'histoire de ce monument. Mais il me manque la connaissance sur les matériaux d'origine.
C'est de la brique.
Simplement la brique.
De la brique, oui.
Couleur rouge.
Les seuls éléments en pierre sont les 63 bas-reliefs que vous avez vus pendant cet exposé.
Merci.
Comme je vous l'ai dit, à un moment, c'est une région qui est très pauvre en pierre. Pardon. D'ailleurs, la pierre était généralement exportée de la partie plus occidentale de la vallée du Gange, de la région du Bihar. Donc, c'est une région où on construit exclusivement en briques.
C'est ça. Mais les bas-reliefs sont de terre cuite.
Les 63 bas-reliefs hindous, 62 hindous et un qui est quand même bouddhiste, sont en pierre, et tous les autres, toutes les petites plaques décoratives sont en terre cuite.
Merci. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a une transition possible dans l'histoire entre les croyances brahmaniques et la pratique bouddhique.
Effectivement,
et que vous avez relié, enfin remarqué l'importance du passage noté par le Xuanzang. C'est très bien. Merci beaucoup.
Je pense qu'on a peut-être trop tendance dans l'histoire artistique de l'Inde de séparer trop nettement les traditions hindoues des traditions bouddhistes. Au niveau architectural, il y a eu beaucoup de passages, certainement. Enfin, c'est quand même une question qui a été abordée, mais qui mériterait d'être creusée encore davantage.
Dans l'état actuel de la situation politique, est-ce qu'on peut penser que le chantier de fouilles de Mahastan va pouvoir continuer ses activités ou que tout
alors
va s'arrêter?
Là, je parle en leur nom, parce que je ne fais pas moi-même partie de l'équipe de Mahastan. Pour cette année, les fouilles, normalement, se déroulent du mois de janvier, enfin, grosso modo, entre janvier et mars-avril. Pour cette année, les fouilles françaises ont été suspendues, compte tenu de la situation qui était un petit peu tendue. Je ne sais pas si le risque était énorme, mais les autorités françaises ont souhaité qu'aucun ressortissant français, pour l'instant, ne parte sur place. Pour autant, les fouilles ne sont. Enfin, le projet de coopération existe toujours, et donc pour l'année prochaine, on verra ce qui se passera. D'ici là, il y aura eu des élections au Bangladesh. Hein, donc les élections sont normalement prévues pour décembre 2008. Donc, il est nécessaire peut-être d'abord de voir si ces élections ont lieu, parce que ce n'est pas encore gagné, et ensuite, quel en est le résultat.
Merci beaucoup. C'est moi. Là. Je voudrais revenir sur votre hypothèse de temple hindou au 7e siècle. Vous pensez à un certain type de plan, je suppose, et un certain type de fondation. Est-ce que vous avez des exemples qui pourraient
s'en rapprocher ? Pas d'exemple particulier, pas d'un autre temple hindou. En fait, c'est une question que je pensais pouvoir analyser davantage dans le cadre d'un colloque qui a été annulé au même titre que l'exposition. Là, je ne suis pas rentré dans ce détail. Une des hypothèses de Dixit pour parler d'une fondation d'origine Jain, c'est qu'il voyait dans l'origine de ce plan en croix, avec des ressauts intermédiaires, un type de temple appelé Sarvatubhadra plutôt Chaturmukha dans le jainisme. Et finalement, lorsqu'on analyse les traités d'architecture indiens, qu'ils soient bouddhistes ou surtout hindous, moi, je connais mieux les textes du Sud, mais même dans ceux du Nord, on trouve le modèle dit Sarvatubhadra qui pourrait convenir aussi à part pour. En tout cas, je pense que ce type de plan n'est pas spécifique d'une des trois religions. Donc ça, ce serait le premier point. L'autre point, c'est que j'ai essayé de voir plus précisément quelle était la répartition iconographique de ces 63 figures, qui n'est pas extrêmement cohérent. Il y a peut-être eu quelques modifications au fil du temps, mais j'ai le sentiment, mais là, il faudrait que je le parle avec un plan à l'appui, que la disposition des figures n'est pas tout à fait incohérente. Et donc, c'est pourquoi j'ai du mal à penser qu'il s'agit d'un simple remploi. Je pense que les pièces ne sont pas tout à fait là par hasard. Ce qui me conduit à penser qu'il y a eu quand même un plan qui a peut-être été laissé à l'abandon, parce qu'il devait certainement y avoir plus de relief. Enfin, non pas que certains aient disparu, mais d'autres n'auraient pas été réalisés. Mais je pense qu'on voit quand même se dessiner un premier programme iconographique. Mais bon, ça, je me réserve ça pour les prochains mois. Maintenant que j'ai plus d'exposition à monter, je vais pouvoir étudier ça.
S'il n'y a plus de questions, on va remercier Vincent Lefebvre encore une fois.